Un parfum qui se répand, comme nous dit le cantique des cantiques. N'est-ce pas merveilleux cela? Sa présence est un parfum. Alléluia. Un parfum qui guérit. Un parfum qui renouvelle. Un parfum qui console. Un parfum qui réjouit le cœur. Alléluia. Que tout exalte sa beauté, sa majesté. Alléluia. Merci Seigneur pour ton grand amour envers nous. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Il est bon d'honorer la présence de Dieu. C'est quelque chose que les enfants de Dieu doivent apprendre. C'est quelque chose que je n'ai pas compris pendant longtemps, chers amis. Honorer la présence de Dieu. Respecter sa présence. Désirer sa présence. C'est quelque chose de glorieux, n'est-ce pas? Et je suis sûr que si nous honorons Dieu, Dieu nous honorera. Et je suis sûr que si nous élevons Dieu, Dieu nous élèvera. Je suis sûr que si nous bénissons Dieu, Dieu nous bénira. Alléluia. Que son nom soit béni. Les quelques paroles que je voudrais vous dire ce soir auront à faire avec la formation que Dieu veut donner à chacun d'entre nous. Il me vient à l'esprit maintenant un passage d'Ésaïe. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. La preuve que nous sommes vraiment formés de Dieu, c'est que nous publions ses louanges, n'est-ce pas vrai? C'est une logique toute simple. Et si nous ne publions pas ses louanges, c'est que nous n'avons pas été formés par Dieu. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Pas les louanges d'un homme, pas les louanges d'une église, pas les louanges d'un mouvement, mais les louanges de Dieu. Amen. Le sujet ce soir, la formation du serviteur de Dieu. Comment être mieux formé pour mieux adorer? Comment être mieux formé pour mieux servir? Comment être formé? La formation du serviteur de Dieu. Ce n'est pas seulement pour ceux qui sont au service de Dieu, car nous sommes tous au service de Dieu, n'est-ce pas vrai? Quelle est donc la formation que Dieu attend de vous pour mieux le louer, pour que ça sorte encore d'une manière beaucoup plus épanouie et libre? Si nous avons de la peine encore à nous exprimer librement, c'est que nous avons besoin d'une formation encore beaucoup plus profonde dans le fond de notre être, n'est-ce pas vrai? Car la vraie louange et la vraie adoration, c'est celle qui sort spontanément du fond du cœur, sans aucune pression extérieure. Il y en a qui peuvent le louer uniquement le dimanche matin. Dans la semaine, ils ne peuvent pas. Il n'y a rien qui les pousse à louer. Si nous sommes uniquement poussés à louer le Seigneur le dimanche matin, alors nous pouvons conclure que nous le faisons par habitude. Mais si nous arrivons à le louer, à le bénir tous les jours, alors vous avez compris quelque chose. Dieu vous a vraiment formé. Et parce qu'il vous a formé, vous pourrez en former d'autres. La formation du serviteur de Dieu, la formation de l'enfant de Dieu. J'aimerais vous donner les 5 leçons que nous devons tous apprendre à l'école de Dieu. 5 leçons que nous devons tous apprendre à l'école de Dieu. Et ces leçons, nous allons les trouver dans un récit tout simple de la multiplication des pains. Alors, si vous avez vos Bibles, nous allons lire maintenant dans l'Évangile de Luc au chapitre 9. Évangile de Luc, chapitre 9. À partir du verset 10, Luc chapitre 9, verset 10, jusqu'au verset 17. Les apôtres, étant de retour, racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Il les prit avec lui et se retira à l'écart, du côté d'une ville appelée Bethsaïda. Les foules l'ayant su, le suivirent. Jésus les accueillit et il leur parlait du royaume de Dieu. Il guérit aussi ceux qui avaient besoin d'être guéris. Comme le jour commençait à baisser, les 12 s'approchèrent et lui dirent « Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages et dans les campagnes des environs pour se loger et pour trouver des vivres. Car nous sommes ici dans un lieu désert. » Jésus leur dit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils répondirent, « Nous n'avons que 5 pains et 2 poissons, à moins que nous n'allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. » Or, il y avait environ 5000 hommes. Notez bien, 5000 hommes. Supposons qu'il y avait aussi environ 5000 femmes. Et autant d'enfants, pour ne pas exagérer, en tout cas 15000 personnes se trouvaient là. Ils firent... Or, il y avait donc 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples, « Faites-les asseoir par rangées de 50. » Ils firent ainsi, ils les firent asseoir. Jésus, soulignez bien maintenant ce verset, car il sera la base, le texte de notre méditation. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il les bénit. Puis, il les rompit et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuassent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Seigneur, bénis ta parole. Ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par cette vérité. Comment Jésus a fait ce miracle extraordinaire? Le verset 16 nous montre exactement comment Jésus s'y est pris. Et dans l'acte de prendre les pains et le poisson et les poissons, il y a justement les leçons que nous devons apprendre ce soir. Comme Jésus a pris les 5 pains et les 2 poissons, il veut aussi prendre chacun d'entre nous, nous utiliser pour la gloire de son nom. Le croyez-vous? Ce n'était pas grand-chose ce qu'il avait entre ses mains. 5 pains et 2 poissons. Ce n'était absolument rien, c'était insignifiant à côté de la foule qui était devant lui. Mais peu dans les mains de Jésus, c'est beaucoup. Amen. Peu dans les mains de Jésus, c'est beaucoup. Et comment Jésus a-t-il fait ce miracle? Nous allons voir comment il a fait avec les pains. Et si nous comprenons comment il a fait avec les pains, alors il fera aussi la même chose avec nous. Alors la première leçon est celle-ci que nous devons tous apprendre, c'est celle-ci. Qu'a-t-il fait premièrement Jésus? Il est dit au verset 16, Jésus prit les 5 pains. Ça, c'est la première leçon. Il nous prend. Il nous prend. Avec le peu que nous avons. Ça, c'est la première leçon que nous devons bien apprendre. Il nous prend avec le peu de talent, le peu de dons, le peu de capacité que nous avons. Dieu nous prend. C'est quelque chose, je crois, d'encourageant. Vous ne trouvez pas? Beaucoup d'entre nous, nous attendons d'avoir des choses extraordinaires pour commencer à servir Dieu. Et nous risquons d'attendre longtemps. Et beaucoup attendent longtemps, ils attendent des choses extraordinaires. Entre parenthèses, s'ils les avaient, l'orgueil les tuerait tout de suite, et ils ne pourraient même plus servir le Seigneur. Mais je crois que c'est encourageant parce que Dieu nous dit par là, eh bien, je te prends tel que tu es. Avec le peu que tu as, tu peux me servir. Avons-nous compris cette leçon? Le peu que vous avez peut être béni entre les mains du Seigneur. Mais le peu que vous avez doit être entièrement consacré au Seigneur. Cela ne sert à rien de se lamenter, de dire au Seigneur, j'ai 5 pains et 2 poissons. Seigneur, tu vois bien, ils sont là, ces 5 pains et 2 poissons. Tant que vous les gardez dans vos mains, Dieu ne pourra pas les bénir. Que faut-il faire? Il nous prend. Donc c'est un acte de consécration. C'est seulement lorsque les pains et les poissons ont été mis dans les mains de Jésus qu'ils ont changé de propriétaire. que Jésus a pu commencer à faire son travail. N'est-ce pas vrai? Alors, la première leçon à prendre est celle-ci, c'est que Dieu nous prend avec le peu que nous sommes, mais ce peu que nous sommes doit être entièrement entre ses mains. Et c'est le problème avec beaucoup d'entre nous, nous disons, on est plein de contradictions, nous disons que nous n'avons pas grand-chose, mais ce pas grand-chose, nous ne le donnons même pas au Seigneur. Ou nous en donnons les cinquièmes, les cinq dixièmes, les huit dixièmes, les trois quarts. Mais nous ne donnons pas tout. Et tant que nous ne donnons pas tout, même le peu que nous avons, Dieu ne pourra pas nous utiliser comme il le voudrait, n'est-ce pas vrai? Alors cela ne sert à rien de se lamenter, de dire à Dieu, oh, Seigneur, j'ai peu de choses. Dieu ne vous fait pas de reproche parce que vous avez peu de choses. Dieu nous fait un reproche parce que ce peu n'a pas été, une fois pour toutes, mis entre ses mains. Alléluia! Mettez ce peu entre les mains d'un Dieu miraculeux et quelque chose va se passer. Le croyez-vous? Moi, ça m'encourage. Ça m'encourage beaucoup. Seigneur, j'ai que cinq pains et deux poissons, j'ai pas grand-chose. Mais au moins, je te donne ce que j'ai. Alors, c'est la première leçon. Le peu que nous avons ne décourage pas le Seigneur. Mais ce peu doit être entièrement entre ses mains. Cela doit changer de propriétaire. C'est pourquoi à un moment donné, il y a comme une crise qui se passe dans votre vie. Je ne sais pas à quel moment cette crise s'est passée dans votre vie, mais je sais à quel moment, à plusieurs moments même, cette crise a eu lieu dans ma vie. Lorsque j'ai réalisé que ma vie spirituelle, à un moment donné, même dans le ministère, végétait d'une manière ou d'une autre, jusqu'au jour où Dieu a profondément parlé à mon cœur. Et il fallait que je me reconsacre tout à nouveau à lui. Et cette consécration devait être totale, définitive, de telle façon que Dieu puisse à nouveau m'utiliser. Je vous assure, quand nous faisons cela, alors quelque chose commence à se passer dans notre vie. Le croyez-vous? Savez-vous que ce ne sont pas des grandes choses qui nous empêche de nous consacrer à Dieu? Ce ne sont pas les grands péchés qui nous empêchent d'expérimenter la puissance de Dieu? Pourquoi est-ce que notre consécration n'est pas efficace? Nous disons bien, oh Seigneur, je te donne tout, je te donne tout. Mais j'aimerais vous donnez trois points sur lesquels vous devez veiller et vérifier si votre consécration est totale au Seigneur Jésus. Premièrement, si nous voulons que notre consécration soit totale, nous devons veiller sur nos faiblesses. Chacun d'entre nous, avant notre conversion, nous avons eu des faiblesses, n'est-ce pas? À moins que vous soyez tous des anges, je me demande pourquoi vous êtes convertis d'ailleurs. Il y en a à les voir et à les entendre, on a l'impression que, avant d'être chrétien, c'était déjà des anges. Il y a un point sur lequel nous devons veiller nos faiblesses. Vous connaissez vos faiblesses, vous connaissez les points faibles dans votre vie, et c'est dans ce domaine-là que vous devez absolument et absolument veiller. Parce que, après la conversion, pendant quelques temps, ça va bien. Hein, nous combattons bien contre ce péché qui nous a humiliés un petit peu, qui nous a abaissés, et on regrette cela. Alors pendant quelques temps, on combat contre ce péché. On dit, Seigneur, c'est pas possible, maintenant je t'appartiens, je ne peux plus recommencer de telles choses. Mais au bout d'un certain temps, on se croit un petit peu trop fort, et certaines choses recommencent à venir à la surface. Et la tragédie, c'est que, sans nous en rendre compte, nous commençons à tolérer dans nos pensées certaines choses qui déshonorent le Seigneur. Vous savez, il ne faut pas grand-chose pour que notre vie spirituelle ne porte pas des fruits. Il ne faut pas grand-chose. Un jour, je lisais dans une petite brochure cette illustration d'un grand arbre. Ce grand arbre avait résisté à la tempête, avait résisté au vent, avait résisté à la pluie. Rien de ce qui allait contre cet arbre géant ne pouvait le détruire ni le faire tomber. C'était vraiment un spectacle grandiose à contempler. Rien ne pouvait le faire tomber. Et un jour, un matin, alors qu'il n'y a eu ni vent, ni tempête, ni quoi que ce soit, cet arbre géant était par terre. Et on s'est dit, mais comment ça se fait que ce géant est tombé par terre, alors qu'auparavant, rien ne pouvait le faire tomber. Et on est allé voir quelque chose à la racine du tronc. Et on s'est aperçu qu'il y avait comme une petite bête, je ne sais pas exactement quelle est cette bête, mais qui, pendant des années, avait fait comme des petits tunnels dans le tronc de ce géant. Et alors, pendant des années, cette petite bête de rien du tout a navigué dans ce tronc, jusqu'au jour où, le tronc étant absolument faible, il est tombé sans aucune pression extérieure. Les ennemis ne sont pas souvent à l'extérieur, l'ennemi peut être à l'intérieur. Et si nous tolérons la moindre chose dans notre vie, alors qu'est-ce qui se passe, chers amis? Un jour ou l'autre, ce sera la chute. C'est pourquoi, dans notre consécration, nous devons veiller à la moindre petite chose. Est-ce que vous êtes d'accord, chers amis? Nous le voyons trop autour de nous. Oh, nous ne pratiquons pas des petits péchés, de grands péchés, je veux dire, mais ces petites choses qui nous minent jour et nuit, ça dure pendant des années. Et un jour, on se demande pourquoi telle personne est tombée. On se demande pourquoi tel chrétien, ça y est, on ne le voit plus. Alors que dans le secret du cœur, il y avait quelque chose, un petit quelque chose, qui était toléré et qui un jour a détruit cette personne. Il nous prend, voulez-vous ce soir, chers amis, dans un acte de consécration, absolument tout lui donner. Amen. Absolument tout lui donner et ne rien tolérer dans votre vie et ne pas jouer avec le péché, car le péché, si nous ne le tuons pas, nous tuera un jour. Il faut donc veiller dans le domaine de nos faiblesses. Il y a un autre domaine dans lequel nous devons veiller, c'est dans le domaine de nos amitiés, de nos amis. La Bible dit bien, dans 1 Corinthiens 15, 33, que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Certains d'entre nous avons toujours des hauts et des bas. Pourquoi? On se consacre bien au Seigneur. Et Dieu accepte notre consécration. Mais il y a un domaine dans lequel nous ne veillons pas, c'est avec nos amis. Certains amis, entre guillemets, que nous avons, constamment nous met en bas. Certains amis ne sont pas les amis que Dieu voudrait que vous ayez, parce que ces amis détruisent votre foi. Ces amis injectent dans votre esprit l'impureté, l'incrédulité. Le contact avec eux vous fait du mal. Et si vous maintenez un tel contact pendant des mois ou des années, comment voulez-vous grandir? Comment voulez-vous que votre consécration porte du fruit? C'est impossible. C'est pourquoi chacun d'entre nous devons veiller avec qui nous sommes, n'est-ce pas vrai? Et il faut que la personne avec laquelle nous sommes soit une personne qui nous inspire, au lieu d'être une personne qui détruit notre foi, ou qui nous souille d'une manière ou d'une autre. Est-ce que les amis que vous avez sont vraiment des amis qui vous rapprochent de Dieu ou vous éloignent de Dieu? Oh, vous dites, frère, je dois encore me reconsacrer parce que ça ne va pas du tout avec moi. Et vous retournez toujours avec les mêmes compagnies qui vous corrompent, qui vous souillent et qui vous éloignent de Dieu. Un jour ou l'autre, il faut faire le choix et choisir des bons amis qui inspirent votre foi. Imitez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent les promesses. Voilà qui nous devons imiter. Voilà avec qui nous devons vivre. Des personnes qui fortifient notre foi, qui nous encouragent. Et à leur contact, vous vous sentez littéralement renouvelés. À leur contact, vous vous sentez purifié. À leur contact, vous vous sentez encouragé.
À leur contact, il semble que vous reprenez du courage et de la force. Voilà les amis que vous devez avoir. Ce sont des petites choses, mais si nous ne veillons pas, alors un jour, nous aurons de graves difficultés, n'est-ce pas vrai?
Et il y a un autre domaine dans lequel nous devons veiller et que nous ne veillons pas aussi.
C'est dans le domaine de la discussion. La discussion, je répète bien, discussion. Dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 23, Paul dit à Timothée, « Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles ne font qu'engendrer des querelles. Or, un serviteur de Dieu ne doit pas avoir de querelles. » Savez-vous que ce qui ôte l'onction le plus vite dans notre vie, c'est la discussion? S'il y a une leçon que nous devons apprendre très vite dans notre vie chrétienne, c'est d'éviter les discussions folles et inutiles. Et malheureusement, combien de chrétiens dans ce domaine-là ne veillent absolument pas, on papote du matin au soir pour rien du tout. Et on se dit, mais Seigneur, comment ça se fait que je n'ai pas l'onction? On se dit, mais Seigneur, comment ça se fait que tu ne m'utilises pas? Chers amis, il y a un prix à payer si nous voulons que Dieu nous utilise, n'est-ce pas vrai? Si l'athlète veut remporter le prix, alors l'athlète ne peut pas vivre comme un autre homme. Il y a une discipline personnelle, il y a une consécration personnelle, il a même une nourriture personnelle, il a une vision personnelle, il y a quelque chose qu'il fait qui est tout à fait différent des autres. Il passera même peut-être pour un fou à l'égard des autres, mais il a une vision. Il en est de même pour le chrétien. Si nous voulons que Dieu nous utilise, nous ne pouvons pas faire ce que tous les autres font. Évitons, repoussons les discussions folles et inutiles qui étouffent le Saint-Esprit dans notre vie. Voulez-vous le faire? C'est cela la consécration? Est-ce que vous avez tout remis cela entre les mains du Seigneur? Vous verrez Dieu vous bénir d'une manière extraordinaire. Amen. Alléluia. Il nous prend. C'est l'acte de consécration. Vous êtes-vous donné une fois pour toutes au Seigneur? Et si Dieu vous montre quelque chose ce soir, voulez-vous vous donner encore maintenant? Parce que la consécration est un acte personnel à un moment donné, mais c'est aussi un acte progressif. Chaque fois que Dieu vous montre quelque chose, alors vous devez vous reconsacrer en obéissant à ce que Dieu vous a montré. Amen? Quand je me suis consacré plusieurs fois, je n'ai pas compris ce que j'ai compris maintenant. Mais chaque fois que Dieu me demandait quelque chose, je devais obéir et me reconsacrer encore davantage. Si Dieu vous parle, vous devez obéir à sa voix. C'est ainsi que sa vie, votre vie sera dans ses mains et dans ses mains vous serez bénis. Alléluia. Dans ses mains, votre vie verra de grandes bénédictions. Êtes-vous conscient ce soir que vous avez changé de propriétaire? Que vous ne vous appartenez plus à vous-même, mais que vous appartenez à celui qui est mort et ressuscité pour vous. Alléluia! Amen.
Il nous prend tel que nous sommes, mais avec tout ce que nous sommes,
en veillant à ces petites choses qui détruisent la vie de beaucoup de chrétiens. Deuxièmement, la deuxième leçon que nous devons apprendre est celle-ci. Qu'est-ce qu'il est dit? Jésus prit les 5 pains et 2 poissons, et ensuite, qu'est-ce qu'il fit? Il y a une deuxième chose qu'il a fait. Il les
bénit.
Alors ça, c'est la deuxième leçon que nous devons apprendre. Il nous bénit. Dieu bénit toujours ce que nous lui donnons. Si vous ne lui donnez rien, il ne va pas bénir des courants d'air. Beaucoup de chrétiens disent, « Oh Seigneur, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. » Mais leur vie n'est pas sur l'autel. Le feu ne descend que sur l'autel, chers amis. Avons-nous compris cela? C'est ce que nous donnons à Dieu que Dieu bénit. Si nous donnons peu, il bénit peu. Si nous donnons beaucoup, il bénit beaucoup. Si nous donnons tout, il nous bénira totalement. Alléluia! Il bénit ce que vous donnez. Il y a 2 dangers lorsque nous sommes bénis, auxquels nous devons tous faire face, si nous voulons que Dieu nous utilise. C'est que, premièrement, Dieu nous bénit toujours pour glorifier son nom. Amen. Dieu nous bénit toujours pour glorifier son nom. Et si nous ne faisons pas cela, tôt ou tard, l'onction de Dieu disparaîtra et nous serons privés de sa force. Si Dieu nous bénit, et dans la bénédiction nous devons bien faire attention de veiller à ce que Dieu seul soit glorifié. Oh, veillons à cela. Il y a un autre danger aussi quand Dieu nous bénit, c'est que s'il nous bénit, c'est pour les autres. C'est pour les autres. Ce n'est point pour vous-même. C'est pour édifier les autres. L'apôtre lui-même le dit. Vous qui cherchez des dons spirituels, si vous en cherchez, cherchez-les pour pouvoir édifier son peuple, édifier l'Église. Nous sommes bénis pour les autres. Alléluia! Si nous avons compris cela, la bénédiction de Dieu restera sur nous. Il nous bénit. Et qu'est-ce qu'il fait avec ce qu'il bénit? Allons plus loin maintenant, une troisième leçon que nous devons apprendre. Qu'est-ce qu'il est dit? Jésus prit les 5 pains, les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il les bénit. Alors après, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que c'est terminé? Est-ce qu'il les a donnés directement comme ça à la foule? Non. Il a fait une troisième chose. Jésus prit les pains, et levant les yeux vers le ciel, il les bénit, puis il les rompit. Alors, il nous prend. Ce qu'il prend, il le bénit. Et ce qu'il bénit, il le brise. C'est la troisième leçon que nous devons apprendre. Il nous brise. On ne donne pas à manger, on ne donne pas le pain en entier aux gens, n'est-ce pas? Ils étoufferaient. C'est pourquoi notre témoignage étouffe les gens. On les étouffe. Vous comprenez, on est tellement grand à nos propres yeux que lorsque nous parlons du Seigneur, nous les étouffons au lieu de leur donner la vie. Il nous brise, il les rompit. Il y a là quelque chose de très, très important que tous les hommes de Dieu, dans la Bible et dans l'histoire, ont dû apprendre. C'était le brisement. Je pense maintenant à l'apôtre Pierre. Est-ce qu'il a passé par un brisement, l'apôtre Pierre? Vous le savez comme moi, n'est-ce pas? Quel brisement! Il se sentait bien fort, l'apôtre Pierre, à un tel point même qu'il méprisait ses camarades et qu'il leur disait, « Seigneur, tu vois bien, si tous t'abandonnent, moi, je ne t'abandonnerai pas. » Combien d'entre nous nous avons cela? Moi, je suis là, Seigneur, oui. C'est rien du tout à côté de moi. S'ils savaient un peu tout ce que je suis, ils me respecteraient un peu davantage, ceux-là. Ceux-là, ils t'ont abandonné, mais Seigneur, tu... Moi, je suis quelqu'un. Ah oui, si tu es quelqu'un, tu dois apprendre justement à n'être rien du tout. Et c'est la douloureuse expérience et bienheureuse expérience que l'apôtre Pierre a dû faire. Le brisement... manifeste deux révélations. Dans la vie de Pierre, nous le voyons. Son brisement a révélé une chose, l'état de son cœur, n'est-ce pas vrai? Il y dit qu'il pleura amèrement lorsqu'il se rendit compte que vraiment il avait déshonoré son maître. Il a vu exactement comme il était. Et alors il pleura amèrement. Avons-nous vu Pierre pleurer dans un coin? Cet apôtre qui a fait des miracles. Mais cependant, il n'était pas encore brisé. Nous pouvons faire des miracles, nous pouvons faire de grandes choses et ne pas être brisés encore. Jusqu'au jour où Dieu a permis qu'il ait des échecs. Savez-vous que Dieu permet que nous ayons des échecs? Dieu est un Dieu de succès, mais il permet que nous ayons des échecs. Ça, c'est une glorieuse leçon à prendre. Il le permet, il le permettra pour que nous sachions un peu qui nous sommes. Et quand Pierre a eu la révélation de la noirceur de son cœur, de l'orgueil de son cœur, de la méchanceté de son cœur, il a eu une autre révélation, et c'est ça qui est formidable. Il a eu maintenant la révélation du cœur de Jésus. Et c'est ce qui l'a profondément touché. Dans son humiliation, dans son abaissement, il s'est dit, le Seigneur maintenant, comment peut-il aimer quelqu'un comme moi? Comment peut-il aimer quelqu'un comme moi? Ce n'est pas possible, le Seigneur ne m'aime plus maintenant. Avec tout le mal que je lui ai fait, comment peut-il encore m'aimer? Ce n'est pas possible. Mais Pierre ne connaissait pas encore le cœur de Jésus. Jusqu'à présent, il connaissait la main de Jésus, mais il devait connaître le cœur de Jésus. Alléluia. Et quand Jésus est venu vers Pierre, vous le savez, n'est-ce pas? Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre a compris quelque chose, mais comment? Malgré tout ce que j'ai fait, tu m'aimes encore? Avez-vous remarqué ce que Jésus dit? Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? C'est la question inverse qui aurait dû se poser, n'est-ce pas vrai? C'est pas Jésus qui devrait dire à Pierre, « Pierre, m'aimes-tu ?» C'est Pierre qui aurait dû dire à Jésus, « Jésus, après la bêtise que j'ai faite, est-ce que tu m'aimes encore ?» Mais la question était bien comme celle-là. « Toi, Pierre, m'aimes-tu encore ?» Ce qui veut dire que malgré ton reniement, malgré ton orgueil, je t'aime encore. Mon amour pour toi n'a pas changé. Je t'aime encore. Alléluia. Et je crois que Pierre a eu la plus belle révélation qu'il n'ait jamais eue du cœur de Jésus. Et il a dit, il m'aime encore. Il m'aime encore. Il m'aime encore. Quel réconfort pour son cœur, n'est-ce pas vrai? Quelle consolation pour son âme! Il m'aime encore! Le brisement a révélé la noirceur de son cœur, mais le brisement a révélé la beauté du cœur de notre Seigneur Jésus. N'est-ce pas merveilleux cela? Pourquoi est-ce que Dieu n'est pas si beau pour nous? Parce que nous n'avons pas encore réalisé la noirceur de notre cœur. Plus nous réalisons que nous ne sommes rien, plus nous réaliserons qu'il est tout. Alléluia! Il nous prend. Ce qu'il prend, il le bénit. Ce qu'il bénit, il le brise. Et ensuite, qu'est-ce qu'il est dit? Il les bénit, puis il les rompit et les donna aux disciples afin qu'il les distribuasse à la foule. Alors, qu'est-ce qu'il fait? La quatrième chose qu'il a fait, il les donna, on pourrait traduire, il nous envoie maintenant. Après nous avoir brisés, il nous envoie. N'est-ce pas merveilleux cela? Maintenant, nous pouvons partir avec quelque chose dans le cœur et quelque chose dans les mains. Et qu'avait-il dans les mains? Du pain et du poisson. Qui allait rassasier la foule. Autrement dit, on aimait le pain et le poisson, n'est-ce pas vrai? C'était deux choses qu'on aimait ardemment. Et que les disciples eux-mêmes ont aimé ardemment. Mais qu'est-ce que cela? Qu'est-ce que le pain et qu'est-ce que les poissons? Comment est-ce que Dieu nous envoie avec des pains et des poissons? Qu'est-ce que cela veut dire? Le pain, c'est Jésus, n'est-ce pas? Je suis le pain de vie. Donc, il nous envoie avec une passion pour Jésus. Alléluia! Et le poisson, qu'est-ce que le poisson? Vous savez que moi, ce sont les pêcheurs. Ce sont les âmes qui sont devant nous. Je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Autrement dit, je vous envoie mes disciples avec une passion pour Jésus et une passion pour les âmes. Voilà comment je vous envoie. Et les gens seront rassasiés, car ce qui rassasie, c'est la passion que nous avons pour Jésus et la passion que nous avons pour les âmes. Mais que c'est triste d'annoncer un évangile bouillant avec un peu froid. Que c'est triste d'annoncer un évangile d'amour avec un cœur plein de haine. Il nous envoie, prenez les pains et les poissons, je suis le pain de vie. Allez, ce pain qu'on aime, aimez-le vous-même, aimez Jésus. Remarquez, il y a 5 pains et 2 poissons. Il y avait plus de pain que de poisson. Nous devons davantage aimer Jésus.
Alléluia.
Et quand nous aimons Jésus de tout notre cœur, si nous l'aimons 5 fois plus que d'ordinaire, alors ça va déborder largement sur les 2 poissons qui restent. Amen.
Amen.
Alléluia. Il nous envoie. Avec une passion pour les âmes aussi. Ceci est très important. Je le réalise dans les missions que je fais à gauche, à droite. Là aussi, combien de fois Dieu m'a humilié, m'a parlé, où j'ai réalisé le manque de compassion et de passion qu'il y avait dans mon âme pour les gens. Vous savez, on peut faire tout un tas de travail sans véritable compassion. Avez-vous pensé à cela? Voilà pourquoi nous sommes découragés, voilà pourquoi nous sommes secs, voilà pourquoi nous faisons des dépressions. Le service sans compassion détruit quelqu'un. Un jour, je lisais cette histoire d'un pasteur qui faisait du porte-à-porte. Il est arrivé à une porte où une dame a ouvert la porte. Alors le pasteur s'est présenté en disant, voilà, je viens vous parler du Seigneur. Mais cette femme n'a rien voulu entendre, elle n'a même pas parlé, elle a tout de suite fermé la porte devant le nez de ce pasteur. Et le pasteur est resté là pendant quelques instants. Et pendant qu'il était là derrière sa porte, les larmes coulaient de ses yeux par amour pour cette femme qui venait de rejeter le Sauveur ou lui-même. Et comme la femme ne voyait pas le pasteur partir, elle est allée à la fenêtre. Et en regardant un petit peu comme cela à la fenêtre, elle a vu le pasteur encore derrière la porte. Mais elle a vu autre chose qui a littéralement brisé son cœur. C'était les larmes du pasteur. Le dimanche suivant, cette femme était à l'église. Elle se donnait entièrement au Seigneur Jésus. Qu'est-ce qui l'a touché? Ce sont ses larmes. La passion, la compassion pour les âmes. Voilà comment Dieu nous envoie. Oh, que Dieu nous vienne en aide, n'est-ce pas vrai? Certains considèrent les larmes comme de la sentimentalité. Il y a peut-être certaines larmes qui proviennent de la sentimentalité, mais il y a aussi de véritables larmes de compassion. Et nous n'en verserons jamais de trop. Vous ne croyez pas, chers amis? On disait aux USA, à Los Angeles, quand le réveil de la Pentecôte est venu, je lisais dans un article ceci, à Azusa Street, la puissance de Dieu se manifestait d'une manière extraordinaire. Et dans un article, j'ai lu ceci. Lorsque les larmes cessèrent à Azusa Street, le réveil cessa aussi. Lorsque les larmes cessèrent, le réveil, c'est ça aussi. Pourquoi? Parce que lorsque les larmes cessent, c'est la compassion qui cesse. C'est
C'est l'amour qui cesse. Et là où il n'y a plus d'amour, l'esprit n'y est plus. Parce que l'esprit de Dieu agit toujours dans une atmosphère d'amour.
Amen.
Jamais, jamais le Saint-Esprit ne viendra collaborer avec quelqu'un qui est plein de rancune ou dans une atmosphère qui n'est pas remplie d'amour. Le Saint-Esprit n'entre pas dans ces choses-là. Lorsque les larmes cessèrent, leur réveil cessa aussi. Et il les envoya avec 5 pains et 2 poissons.
Et pour terminer, la 5e leçon que nous devons savoir maintenant, au verset 17, « Tous mangèrent et furent rassasiés. » Alors la 5e leçon que nous devons apprendre et savoir, c'est qu'il nous rassasie.
Alléluia! Non seulement il nous envoie, mais il nous rassasie aussi. Pensez-vous que les apôtres n'ont pas mangé lorsqu'ils donnaient à manger aux autres? Ils se sont régalés aussi. Alors voyez-vous la leçon magistrale, Luc 6, 38, « Donnez et il vous sera donné. Et l'on versera dans votre sein une mesure serrée, secouée et qui déborde. » Alléluia. Il nous rassasie. Voilà la récompense que Dieu donne à ceux qui sont formés à son école. Il les rassasie. Il y a une plénitude de satisfaction en eux. Comment pouvons-nous rassasier les autres si nous ne sommes pas rassasiés nous-mêmes dans la présence de Dieu, dans la bénédiction de Dieu, dans l'amour de Dieu? N'essayez jamais de partir si votre cœur n'est pas dans la paix. N'essayez jamais de faire quoi que ce soit si votre cœur n'est pas dans cette bénédiction divine, dans cette paix divine, dans ce rassasiement spirituel. Faites d'abord un festin avec Dieu et allez ensuite donner aux autres ce que vous avez mangé. Et vous leur direz, viens et vois, viens manger ce que j'ai déjà mangé. Si tu savais ce que j'ai mangé, tu m'en demanderais quelques kilos. Et il nous rassasie. Voilà le véritable fruit de la formation. Ce n'est pas un dessèchement, ce n'est pas une dépression. Après avoir fait tout ce qu'il fallait faire pour le Seigneur, c'est au contraire un rassasiement de joie. Alléluia. Et ils retournèrent tout joyeux, il est dit. Ils retournèrent tout joyeux. Puissions-nous, chaque fois que Dieu nous envoie quelque part, retourner joyeux, rassasiés. Alléluia. Il nous prend. Ce qu'il prend, il le bénit. Ce qu'il bénit, il le brise. Ce qu'il brise, il envoie. Et ce qu'il envoie, il le rassasie. Alléluia. Que son nom soit béni. Inclinons-nous quelques instants dans la prière. Laissons-nous sonder par son amour. Si Dieu encore a parlé à notre cœur, obéissons à sa voix. Il veut nous faire du bien maintenant. Il veut faire quelque chose au milieu de nous maintenant, à ceux qui lui obéissent. Merci Seigneur. Alléluia. Ayons donc un moment de prière dans la présence du Seigneur. Et que chacun soit libre de s'exprimer devant lui, selon ce que le Seigneur lui a dit et montré. Alléluia. Nous sommes devant toi, Seigneur. Et comme tu as pris ces 5 pains et ces 2 poissons, tu nous prends ce soir. Ô Jésus, nous nous donnons à toi comme tout à nouveau, afin que tu puisses nous bénir, nous briser, nous envoyer et nous rassasier à ta table. Merci, Seigneur.
Alléluia.
Tu veux donner des dons ce soir à ton peuple, afin qu'ils partent avec quelque chose dans leur cœur. Oh, merci, Seigneur. Oh, tu veux bénir ce soir. Tu veux communiquer des dons. Tu veux communiquer ton amour. Tu communiques, Seigneur, ce soir quelque chose à ceux qui s'attendent à toi. à ceux qui ont faim et soif de te servir et de te glorifier.
Gloire à toi, Jésus. Alléluia.